Dialogues européens. Dialogues européens, c'est le titre du nouveau podcast diffusé par Ouest France sur notre site à partir d'aujourd'hui pour alimenter notre couverture des questions européennes sous un autre angle. Face à la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie il y a 2 ans, en février 2022, c'est tout le continent européen qui a été secoué. À des degrés divers, bien sûr, selon que l'on est en Estonie ou au Portugal, l'intensité de la secousse provoquée par la guerre de Poutine n'est pas la même. Mais partout, un même défi a été ressenti, un défi de sécurité, un défi de cohésion qui oblige, qui nous oblige à mieux connaître nos partenaires. Aussi, Ouest France a décidé, dans la tradition de sa ligne éditoriale, de participer à une initiative lancée par l'Institut français, l'organisme qui met en action la politique culturelle française à l'international, notamment à travers le réseau des centres culturels et des instituts français des ambassades en Europe. Cette initiative s'appelle, précisément, Face à la guerre, Dialogues européens. À travers une série de rencontres publiques organisées dans diverses villes européennes, l'objectif est de soutenir le débat, la discussion, l'échange entre Européens. Avec à chaque débat public, des intervenants du pays hôte, bien sûr, des intervenants français, des intervenants ukrainiens, mais aussi des intervenants d'autres pays européens impliqués, eux aussi, dans ces dialogues. La première rencontre de ce type a eu lieu le 14 novembre dernier, à Prague, à l'Université Charles, en guise d'ouverture du Prague European Summit, dédié chaque année aux discussions stratégiques. Une deuxième rencontre a eu lieu fin novembre à Vilnius, en Lituanie, nous y reviendrons. D'autres sont en préparation, tout prochainement en Pologne, puis aux Pays-Bas, en Finlande et en France, à l'automne, Rennes accueillera, au mois de novembre, l'étape française de ces dialogues. Aujourd'hui, c'est à Prague que nous vous emmenons pour entendre quelques voix européennes nous parler de la rupture majeure provoquée par la guerre d'agression menée depuis 2 ans par la Russie de Poutine. Et puisque nous sommes à Prague pour commencer ce cycle, difficile de ne pas commencer par un texte qui est depuis quelques années abondamment cité par les intellectuels européens d'Est en Ouest. Je veux parler de l'essai de l'écrivain tchèque Milan Kundera, publié en 1983 dans la revue Le Débat. Son titre, L'Occident kidnappé ou la tragédie de l'Europe centrale. L'Europe était alors encore divisée en deux par le rideau de fer. L'écrivain tchèque décrit dans ce texte le drame des pays d'Europe centrale, enfermés par Moscou dans le bloc de l'Est, alors que culturellement, cette partie du monde appartient tout entière à l'Occident. Kundera ouvre son texte par le récit de la répression russe des mouvements de Budapest en 1956. Au mois de septembre 1956, écrit-il, le directeur de l'agence de presse de Hongrie, quelques minutes avant que son bureau fût écrasé par l'artillerie russe, envoya par Telex dans le monde entier un message désespéré sur l'offensive russe déclenchée le matin même contre Budapest. La dépêche finit par ces mots « Nous mourons pour la Hongrie et pour l'Europe ». Depuis février 2022, c'est le sentiment de tous les Ukrainiens qui se battent contre l'agression russe. Ce petit texte de Kundera, réédité en 2021, a retrouvé une actualité brûlante, donc depuis le début de la guerre en Ukraine, comme nous l'explique l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire contemporaine de l'Europe centrale, Jacques Rupnik, directeur de recherche émérite à Sciences Po.
Milan Kundera écrit il y a 40 ans, il publie il y a 40 ans, dans la revue Le Débat, un essai qui s'appelle « L'Occident kidnappé », la tragédie de l'Europe centrale. Et quelle était la tragédie de l'Europe centrale à l'heure ? C'était que l'Europe centrale était, comme il dit, culturellement à l'ouest, politiquement à l'est, géographiquement au centre. C'était ça, l'Europe centrale, écartelée en quelque sorte entre son identité culturelle et son appartenance géopolitique. L'après 89, bon, ben, c'est, on peut dire, la réconciliation de la géographie avec la politique et avec la culture. Et donc, voilà, on peut lire l'après 89 sous cet angle-là. Sauf qu'avec le conflit ukrainien, les éditions Gallimard ont eu la bonne idée de rééditer l'essai, qui a été épuisé en un mois, ils ont fait tout de suite une nouvelle édition. Et depuis, il y a une traduction dans une vingtaine de langues. Les dernières, je reçois les informations comme préfacier, il y a Corée, Thaïlande, Chine, Taïwan. C'est-à-dire que ça dépasse le cadre européen. Pourquoi ? Parce qu'il, dans son essai, il mettait l'accent sur deux éléments qui peuvent être, ou qui sont perçus sans doute, c'est ça qui explique les rééditions et l'intérêt que ça suscite. Au moins deux raisons. Premièrement, le sort des petites nations, ce qui intéressait Kundera, le sort des petites nations d'Europe centrale, dont, comme il disait, l'existence ne va pas de soi, n'est pas assurée, n'est pas garantie. Hein? Ce sont des nations anciennes, mais dont l'État est relativement récent, balloté entre, disons, la Russie à l'est et l'Allemagne à l'ouest. C'était ça, historiquement, le sort de l'Europe centrale. Et donc, ces nations dont l'existence n'allait pas de soi. Soudain arrive la guerre en Ukraine. Et on découvre que la nation ukrainienne, en devenir, l'État ukrainien, qui existe depuis 30 ans seulement, ne va pas de soi, entre guillemets, pour reprendre la formule de Kundera. Et que d'une certaine façon, l'Ukraine d'aujourd'hui partage le sort des petites nations d'Europe centrale. Donc ce n'est pas une question de nombre. Évidemment, vous avez 2 millions de Lettons, 10 millions de Tchèques ou 40 millions d'Ukrainiens. Ce n'est pas une question de nombre. C'est le sort, le destin qui est le leur. Et donc ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est la Russie. Parce que Kundera, dans son essai, donne une certaine lecture de ce qu'est la Russie. Parce que pour définir l'Europe centrale, c'est toujours par rapport à quelqu'un. Qui est l'autre par rapport auquel on se définit, hein? L'autre, c'est la Russie. Et il parle de la Russie, il dit que c'est une autre civilisation. Il ne dit pas, il ne fait pas des hiérarchies entre civilisations, il ne dit pas... Mais je sais que maintenant, les gens sont extrêmement sensibles dès qu'on prononce le mot civilisation. Les gens tremblent, ils ont peur qu'on soit dans Huntington, le conflit des civilisations, etc. Non, ce n'est pas le propos de Kundera. Il réfléchit aux sociétés, à l'histoire et à la culture, et au primat de la culture. Et il dit, en gros, la Russie est différente, pour plusieurs raisons que je n'ai pas le temps de développer, mais entre autres la fusion du spirituel et du temporel. Hein, l'Église orthodoxe a féodé au pouvoir politique. Et puis toute une histoire où c'est l'État qui façonne la société à son image et non pas l'inverse. Et là, vous avez... Pour quelqu'un qui s'intéresse au sort de la culture, il dit, voilà, il y a deux conditions. Pas de société civile, pas d'autonomie de la culture, puisque même le religieux était subordonné au pouvoir politique. Voilà deux différences majeures qui font que la Russie a du mal à comprendre la liberté européenne. Ce qu'est la liberté européenne et l'Europe centrale, alors pour lui, c'était ça. Et un des enjeux de la guerre en Ukraine, c'est ça aussi aujourd'hui. Soudain, en Ukraine, on s'intéresse à l'idée d'Europe centrale. Les cartes mentales bougent.
Voilà donc le décor planté et la musique que vous entendez a été enregistrée à Prague, justement, à la Philharmonie de Prague, le 12 novembre dernier. Il s'agit de « Mélodies ukrainiennes », une œuvre du plus grand compositeur ukrainien vivant, Valentin Silvestrov, actuellement réfugié à Berlin. Ce soir-là, c'est le chef d'orchestre ukrainien, Mykola Diadura, qui dirigeait la Philharmonie de Prague et cet air de Silvestrov avec, on le comprend, une émotion toute particulière. Prague, première rencontre donc de ces dialogues européens initiés par l'Institut français. Deux panels avaient été invités et organisés. Je vous propose d'écouter quelques extraits de ces conversations, quelques voix européennes, en commençant par le directeur général des affaires européennes du ministère tchèque des affaires étrangères, M. Jaroslav Kurfürst. Il revient sur le choc du 24 février 2022, il y a 2 ans, lorsque la Russie a envahi le territoire ukrainien.
If I really want to somehow speak about myself, I'm a sort of student of Russian behavior for really many years.
Si je dois vous livrer mon expérience personnelle, je dois d'abord préciser que j'ai étudié le comportement russe pendant de nombreuses années. J'ai vu le processus de radicalisation en cours. Il était si dramatique que j'ai décidé d'écrire un livre sur le sujet, sur la géopolitique russe, une histoire de la géopolitique russe, qui est parue en 2019 ou 2020. Puis un second, consacré à la guerre hybride. Car il apparaissait clairement que la Russie allait dans cette direction, qu'on assistait à une militarisation de la Russie, des comportements russes. C'était très évident. Leur approche de l'Ukraine était de plus en plus radicale, au point d'en faire une cible. Bien sûr, la possibilité que la Russie puisse continuer sur ce registre de la guerre hybride était forte. Ça coûtait moins cher, c'était plutôt efficace, ça permettait de diviser les sociétés occidentales, car il faut bien voir que l'Ukraine n'était pas la seule cible, les démocraties et les institutions occidentales l'étaient aussi. Ils pouvaient continuer ainsi, en profitant de tel ou tel contexte, comme les crises migratoires ou d'autres, et ils étaient en mesure de recourir à toutes les technologies pour semer la discorde au sein des sociétés démocratiques. La démocratie est une compétition entre idées, entre opinions, et ils ont essayé de jouer sur cela. J'ai vraiment été hésitant à accepter qu'une idée si irrationnelle, à savoir prendre 150 000 soldats pour encercler un pays de la taille de l'Ukraine, avec une population aussi pro-européenne et déterminée, puisse devenir réalité. C'était mission impossible. Et puis, ils l'ont fait. C'était irrationnel, militairement, stratégiquement, impossible. Et puis, ils ont attaqué en février et ils ont échoué. L'Ukraine a vraiment démontré sa vocation pro-européenne, pro-occidentale, sa force. Volodymyr Zelensky a brisé le mythe. Nous devons donc défendre l'Ukraine par tous les moyens, car cette défaite stratégique initiale de la Russie aura des conséquences pour le régime de Poutine, même si cela va prendre plus de temps que ce que je pouvais penser en février
2022.
Plus de temps que prévu, nous dit donc Jaroslav Kurfürst. Lors de cette table ronde à Prague, intervenait également une des figures de la défense de l'état de droit en Ukraine, Oleksandra Matvichuk, présidente du Centre pour les libertés civiles de Kiev et co-lauréate du prix Nobel de la paix 2022. Depuis le vrai début de la guerre, en 2014, elle travaille notamment au recueil des éléments de preuve pouvant servir dans les procès pour crimes de guerre commis par les soldats russes. La bataille pour la démocratie et l'état de droit, dit-elle, est sans cesse à mener et probablement nos opinions occidentales ont fini par l'oublier. La liberté est fragile, nous dit Oleksandra Matvichuk, et selon elle, ce que les Ukrainiens peuvent apporter à l'Union européenne, c'est précisément la vive conscience de cette fragilité.
Let me start with the one important observation that problem is not just in fact that authoritarian countries provide more and more strict regime and limited the space for freedom inside their countries. But the problem is that even in well-developed democracies,
laissez-moi commencer par une simple remarque. Le problème ne réside pas uniquement dans le fait que les pays autoritaires durcissent leur régime. Même dans les démocraties avancées, les mouvements politiques qui posent la question du respect des droits de l'homme s'affaiblissent. Il y a une raison à cela, très claire. C'est que dans les démocraties avancées, les nouvelles générations ont hérité de leurs parents un système démocratique, un régime d'état de droit, de respect des droits de l'homme. Ils n'ont jamais combattu pour cela. Elles donnent ces valeurs pour acquises. Elles sont devenues des consommatrices de démocratie plus que des porteurs de valeurs. Elles regardent la liberté un peu comme la liberté de choisir entre différents fromages au supermarché. C'est la raison pour laquelle les générations actuelles, dans les démocraties des pays avancés, confondent de plus en plus leurs repères. Et elles sont prêtes à échanger leur liberté contre des avantages économiques, contre une illusion de sécurité ou contre leur propre gloire. Mais la vérité, c'est que la liberté est très fragile. La liberté ne peut pas être acquise une fois pour toutes. Chaque jour, nous faisons des choix. Et la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, les valeurs doivent être protégés, défendue. C'est exactement ce que les Ukrainiens démontrent actuellement. Il y a 9 ans, des millions d'Ukrainiens ont élevé leur voix contre un gouvernement corrompu et autoritaire qui avait décidé d'interrompre le processus d'intégration vers l'Union européenne. La population courageusement s'est battue, juste pour avoir l'opportunité de construire un pays où les droits de chacun seraient protégés. Où le gouvernement est redevable de ses décisions, où la justice est indépendante, où la police ne frappe pas les étudiants pour le seul fait d'avoir participé à une manifestation pacifique. Et ce n'était pas seulement des mots, c'était des actes décisifs, et nous avons payé un prix très lourd pour cela. Plus de 100 manifestants furent tués par la police. Des gens sont morts sous les drapeaux ukrainiens et de l'Union européenne. Je pense que nous pouvons redonner une âme à l'Union européenne.
People were dying under EU and in Ukrainian flags. I think that we can return European Union a spirit.
Pour cette ouverture du cycle des dialogues européens organisé par l'Institut français, un haut représentant du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères avait fait le déplacement en la personne de David Farr, qui est directeur Union européenne au ministère. Pour la diplomatie française, la guerre en Ukraine est un tournant majeur et il faut en prendre durablement toute la mesure, nous dit-il, avec les défis aussi que cela représente dès lors qu'on évoque la question de l'élargissement de l'Union européenne. David Farr.
I'd like to pick up from this. Thank you very much. There are things we say since the beginning of the war, but I'm not sure we really mean them when we say them.
Je repartirai de ce que vous venez de dire et je vous remercie vraiment pour vos propos. Depuis le début de la guerre, nous prononçons des phrases semblables. Mais je ne suis pas certain que nous nous en soyons pleinement persuadés lorsque nous le disons. Alors qu'elles sont fondamentales. Lorsque nous parlons de tectonique, de moments historiques, de tournants comparables, même si c'est négativement, aux événements de 89 et 91. Nous devons y croire, le penser vraiment. Or, tant que nous vivons dans un confort relatif, je crains que nous les prononcions sans réellement les penser, et en espérant que tout recommence comme avant. Mais c'est vraiment une tectonique des plaques qui est à l'œuvre. Et nous devons prendre des décisions en conformité avec cela. La seconde remarque que je voudrais souligner, c'est que rien n'est acquis. C'est ce que vous dites. Rien n'est acquis. C'est ce que nous redécouvrons, ce que vous savez déjà. Et là encore, on voudrait que tout reprenne comme avant. Mais je crois, en revanche, que nous devons réaliser que nous avons été un peu paresseux. Nous nous sommes autorisés à devenir trop dépendants de pouvoirs qui n'avaient pas de bonnes intentions à notre égard. Nous avons sous-traité notre sécurité. Nous sommes devenus trop vulnérables dans un certain nombre de technologies. Et nous avons beaucoup de travail à faire pour rattraper cela. Ça m'amène à évoquer la question de l'élargissement. Je pense que pour réussir cet élargissement, nous devons bien sûr traiter les questions de gouvernance, d'argent, de politique publique. Mais nous avons déjà eu ces discussions par le passé, à chaque élargissement. Nous savons déjà que ça sera exécrable et qu'on trouvera un compromis. Ce qui est nouveau cette fois, c'est que c'est le premier élargissement qui adviendra dans ce nouveau contexte, dans un monde plus froid, politiquement plus difficile. Et c'est la raison pour laquelle la France soutient cet élargissement, ce qui n'est pas dans notre tradition. Nous sommes plutôt réticents d'ordinaire. Mais là, nous sommes face à une nécessité géopolitique. Donc nous sommes contraints de quitter notre zone de confort, car nous devons prendre en compte la nature historique de ce qui est en jeu. Je pense que pour réussir, les autres aussi doivent quitter leur zone de confort et ne pas penser que l'élargissement en tant que tel améliorera les choses. Aucun élargissement ne rendra l'Union européenne meilleure si nous ne réformons pas l'Union européenne également. Si nous ne nous engageons pas sur la gouvernance, sur la prise en compte des politiques, des capacités, de la réduction des vulnérabilités, du développement de la défense, nous devons donc avancer sur ces deux pistes. Autrement, nous manquerons à notre responsabilité historique.
Historique, c'est bien le mot utilisé par tous les observateurs pour décrire les bouleversements déclenchés par l'invasion de l'Ukraine. Luc von Middelaar, un des meilleurs spécialistes de l'histoire et du fonctionnement de l'Union européenne, est historien et créateur du Brussels Institute for Geopolitics. Il était lui aussi à Prague à cette première rencontre. Parler d'élargissement avant la guerre, c'était presque inconcevable pour les dirigeants européens, nous rappelle-t-il. Il y avait une sorte de fatigue. On avait appuyé sur le bouton pause en 2014. Après l'invasion russe, tout cela change. Luc von Biedela.
Important de souligner le moment historique, vraiment au sens fort du terme, qu'a représenté l'invasion russe de l'Ukraine. C'est vraiment un basculement et un changement d'air, hein. Un changement tectonique, on a dit, ou une entrée dans une nouvelle époque. Et ça, on l'a ressenti, je pense, partout en Europe de façon assez forte. Bien sûr, il y avait des signes précurseurs, comme la Russie avait déjà fait d'autres guerres, actes d'agression, etc. Mais là, quelque chose a basculé et les Européens ont réagi en bloc d'une façon qui moi aussi m'en a fait surpris, hein, parce qu'il y a eu tout de suite beaucoup d'aide aux Ukrainiens et au peuple ukrainien pour se défendre, à la fois en termes d'armes, de soutien financier, mais aussi, évidemment, une très grande solidarité dans toute l'Europe, les pays voisins, mais aussi même beaucoup plus loin, vis-à-vis des réfugiés qui sont venus par millions, etc. Donc il y avait ce sentiment, ce ressenti partagé que quelque chose change et que ça nous affecte aussi en tant qu'Européens, ce qui n'est pas toujours le cas avec les événements ailleurs dans le monde. Et puis, sur un plan plus stratégique, diplomatique, mais quand même fondamental, il y a eu aussi une réponse collective des Européens qui est de prendre acte de cette invasion et de dire, en fait, le continent dans son ensemble tel qu'il fonctionnait depuis la fin de la guerre froide, avec la Russie d'un côté, l'Europe de l'autre, et entre les deux une zone grise, une espèce de no man's land, où il y a des pays comme l'Ukraine, la Moldavie, qui sont peu entre les deux, c'est inconfortable, mais c'était pendant longtemps quand même vivable. Ça ne fonctionne plus depuis la guerre. Il faut considérer en fait qu'il y a un nouveau clivage dur, comme un nouveau rideau de fer quasi, qui traverse l'Europe du nord au sud, et où d'un côté de cette frontière, il y a la Russie et son allié de Biélorussie, et de l'autre côté, quasi tous les États européens. Et ce qu'on est en train de faire sur plein de plans, c'est d'offrir une place à l'Ukraine et à d'autres pays aussi, comme la Moldavie, de notre côté de cette frontière, de les accueillir dans la maison européenne au sens large. Et quand je dis on voit ça sur plusieurs plans, on peut penser à l'OTAN. Moi, je suis toujours impressionné, par exemple, l'entrée de la Suède et Finlande dans l'OTAN, des pays qui ont été neutres, pour le cas de la Suède, depuis les guerres de Napoléon, hein, quand même. Donc c'est historique, au sens fort du terme.
Il y a quelques jours, le deuxième anniversaire de l'invasion russe du territoire ukrainien a été l'occasion de nombreuses rétrospectives. Les Européens, avec une Amérique qui pourrait réélire au mois de novembre prochain Donald Trump à la Maison-Blanche, sont au pied du mur. Seront-ils à la hauteur du défi de sécurité posé par la guerre de Poutine? Dominique Moisy, conseiller spécial de l'Institut Montaigne, qui publie chez Robert Laffont « Le triomphe des émotions » ou « La géopolitique entre peur, colère et espoir », nous dit que la résignation est profondément coupable.
Je crois que la réponse n'est pas écrite. Nous savons ce que nous devons faire, pour peu que nous le voulions.
Que devons-nous faire ?
Demeurer unis, envoyer le plus d'armes possible, le plus vite possible à l'Ukraine, et ouvrir nos portes à l'Ukraine. En réalité, la définition de la victoire et de la défaite est en train d'être réécrite sous nos yeux. Elle n'est pas tant territoriale que politique. Peut-être, au bout du compte, l'Ukraine aura perdu 15 à 20% de son territoire. Mais les 85, 80% d'Ukraine qui resteront seront ancrés dans l'Occident et dans l'Europe. Le choix fait par l'Ukraine d'aller à l'Ouest plutôt qu'à l'Est, aura été ratifié douloureusement grâce au courage des Ukrainiens, grâce à la lucidité des Européens. En fait, je crois que c'est ça. Les Ukrainiens aujourd'hui se trouvent à un tournant. Poutine leur dit « Vous allez redevenir la Biélorussie ». Les Ukrainiens disent « Nous voulons devenir comme la Pologne ». Et nous souhaitons, nous devons souhaiter que l'Ukraine devienne une seconde Pologne. Il en va de la sécurité de tous les pays européens. Il en va de notre capacité à vivre avec une Russie qui, si elle reconstituait un mini-empire avec la Biélorussie et l'Ukraine, deviendrait totalement ingérable.
Il n'y a pas de neutralité possible désormais entre Kiev et Moscou.
Non, il n'y a pas de neutralité possible et il n'y a pas d'équidistance possible. Quand j'entends telle ou telle personnalité dire « nous devons trouver une équidistance, nous Français, entre la Russie et l'Amérique », je me dis que c'est un péché total. C'est passer sous silence la dimension des valeurs. Alors il se peut, si Trump était réélu en novembre 2024 et redevenait président en janvier 2025, que l'Europe ait un rôle beaucoup plus important à jouer pour sa sécurité, qu'elle devienne son assurance-vie ultime. En est-elle capable? Je crois qu'il est dangereux de partir de l'idée que de toute façon nous n'y arriverons pas. Cette sorte de résignation est profondément coupable. Il ne faut pas faire preuve d'irénisme. Il est évident que c'est un pari considérable et très difficile. Personne ne veut mourir pour Kiev. Mais si nous ne faisons pas des sacrifices pour Kiev, nous risquons d'avoir la guerre à nos portes.
Voilà, avec la voix de Dominique Moïsi s'achève ce premier rendez-vous des podcasts Dialogues européens. Nous nous retrouverons pour de prochaines émissions au fil de nos pérégrinations un peu partout en Europe.